RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Dans le désert jordanien, le camp de réfugiés d'El-Zarqa abrite quelque 11 000 réfugiés syriens. Pour parvenir en Jordanie, ces réfugiés ont connu l'enfer. Ils ont tout quitté, vendu ce qu'ils ont pu, payé des contrebandiers et des passeurs, subi la soif, la faim, des marches épuisantes dans le désert pour finalement vivre à présent en sécurité. Les réfugiés syriens en Jordanie, grand reportage signé Toufik Benaïchouch. Toufik que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
À une centaine de kilomètres de Amman, la capitale jordanienne, nous sommes en plein désert. Et où que se porte le regard, rien. Rien qu'une terre orange, tant elle est mêlée de sable. Et soudain, presque à perte de vue, des alignements de petites maisonnettes blanches. L'endroit se nomme El-Zarqa, en arabe, bleu. Bleu comme l'Oued qui coule à quelques kilomètres d'ici. Mais là, rien. Rien que du sable, la terre ingrate et un ciel bleu immobile. Là, au milieu de nulle part, vivent quelque 11 200 réfugiés depuis l'ouverture du camp, depuis avril dernier. À perte de vue, des petites maisons blanches alignées proprement. On est frappé par la propreté du camp. Pas un papier, pas un sachet de plastique ne pollue l'espace. Et chaque coin de rue est surmonté par un lampadaire blanc, surmonté lui-même d'un panneau solaire. Au crépuscule, quand les lampes s'allument, une clameur retentit dans le camp. On a même vu des gens embrasser les lampadaires. Mais avant de connaître ce camp-là, il a fallu traverser l'enfer. Comme Samir, il a 22 ans.
J'étais étudiant à l'université de Damas pendant 3 ans. Je terminais mes études d'ingénieur en télécommunications. Et puis j'ai été arrêté parce que... Vous savez, c'est dur d'en parler. C'est dur. Un jour, j'étais à la cafétéria quand des soldats m'ont arrêté. Les coups ont commencé à pleuvoir. J'ai encore des marques. Regardez. Avec quoi ils m'ont frappé, je ne peux pas vous le dire. Ils m'ont bandé les yeux pendant 7 jours. Pendant 7 jours, ils m'ont battu et battu encore. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi. Ils ne m'ont jamais posé de questions. Pendant 7 jours, ils m'ont juste frappé. Et frappé. À mon avis, ils étaient ivres, simplement ivres, ou alors ils s'amusaient.
Ça a été dur, vraiment terrible. On a coûté la mort. Avec ma mère, on a marché durant 3 jours, sans eau, sans nourriture. Au bout de 7 ou 8 heures, j'ai fini par trouver un puits. On a bu de l'eau fétide avec des têtards dedans. Avec ma mère, on a marché un peu plus de 100 km comme ça. Puis on a payé des passeurs. Ils nous ont mis dans un camion. Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas poser nos 2 pieds sur le sol. On ne pouvait en poser qu'un seul, comme des cigognes. On est resté comme ça dans le camion pendant 7 heures. Ça nous a coûté 112 000 dinars syriens. Le calvaire a duré 11 jours en tout.
Sa famille a quitté la Syrie pour les rejoindre. Cela fait un mois et demi qu'ils attendent à la frontière jordanienne. Salem a une quarantaine d'années. Avec sa femme, ils ont 5 enfants en bas âge.
On a vendu ce qu'on a pu, ce que les soldats n'ont pas pris. L'armée de Bachar a pris ce qui avait de la valeur. Après, les soldats ont brûlé ma maison et celle des voisins. Ce qui avait de la valeur, les soldats l'ont vendu à Tartous, où ils ont créé un marché pour vendre leur butin. Dans les décombres, on a trouvé le corps d'un garçon de 18 ans, un voisin. On a pu reconnaître son corps grâce à son alliance. On a aussi retrouvé une jambe, mais on ne sait pas à qui elle appartenait.
Malgré toutes ces horreurs, ces réfugiés suscitent l'admiration d'Ayman. Ayman travaille au HCR et il s'occupe de la logistique.
Pour être honnête, Ces gens ont énormément souffert avant de pouvoir parvenir ici, en Jordanie, dans le camp. Ils ont été chassés de chez eux depuis 2 ou 3 ans pour certains. Beaucoup ont été blessés. Ils ont connu la faim. Les enfants n'ont pas eu d'école. Ils ont manqué de tout. Mais maintenant qu'ils sont là, ils se sont révélés extrêmement créatifs et innovants. Avec rien, ils sont capables de faire tout. Par exemple, bien que nous soyons en plein désert, certains ont créé des jardins potagers avec des tomates, des concombres, du persil, des épinards. D'autres ont créé des petits poulaillers. Ils essaient de redémarrer une vie, en somme.
Et pour redémarrer une vie, où que l'on soit, il faut de l'électricité. Nous, nous l'avons oublié, mais ça change tout. C'est IKEA, l'entreprise suédoise, très discrète au point de refuser toute interview, qui fournit cette électricité. IKEA, chaque année, pendant quelques mois, prélève 1 euro sur chaque ampoule LED vendue et verse la somme au HCR. 60% de ces fonds collectés seront voués à l'éclairage. Les 40% restants serviront à faire des écoles. L'été, c'est l'idéal, mais l'hiver, c'est intenable, tant le froid est mordant. Car l'électricité n'existe pas encore dans les maisonnettes. Seules des petites lanternes rechargeables, grâce au soleil, sont disponibles. Le problème, c'est leur autonomie. Une fois chargées, elles permettent de s'éclairer 3 heures et encore si l'on n'a pas chargé, grâce à elles, les téléphones portables. Après, on est dans le noir complet jusqu'à l'aube. Les murs de tôle blanche des petites maisonnettes parfois sont coloriés et sont recouvertes de dessins. Entre autres, une immense lune blanche avec un bonnet de nuit de travers bâille sur une maison. Plus loin, un dauphin joyeux et bleu bondissant. Du coup, nous décidons d'aller voir les enfants dans les écoles car ce sont eux qui ont pris les pinceaux. Les enfants à l'école, c'est Rokia, institutrice de 22 ans, qui s'occupe d'eux aujourd'hui.
Regardez, ils dessinent leur maison en Syrie, leur voiture, les arbres qu'ils avaient dans leur jardin, les jouets qu'ils avaient là-bas. Regardez, vous savez, nous sommes dans le désert ici, mais tous leurs dessins sont remplis de verdure, comme en Syrie, là où ils vivaient. Regardez là, la petite fille, elle a dessiné une colombe avec des larmes, parce qu'elle vient de Damas. Et regardez entre ses pattes, elle porte une lettre. Et puis là, vous voyez la petite fille, elle a dessiné 2 bocaux à poissons, des bocaux séparés. Dans le premier, il y a un poisson triste avec des larmes, parce qu'il est tout seul dans son bocal. Et dans l'autre, il y a un poisson qui saute de son bocal, tout souriant, parce qu'il va rejoindre l'autre poisson. En fait, elle rêve de retrouver ses amis à Damas.
Hicham a la cinquantaine et 9 enfants sont éparpillés autour de lui dans sa maisonnette où il nous offre du café. Un canari au milieu du désert, ça demande des explications. L'oiseau est dans une cage de joncs tressée, suspendue à l'entrée de la maison en tôle blanche et il ne cesse de chanter. Hicham l'a acheté pour faire plaisir à ses enfants. Autre miracle, devant la petite maison de tôle blanche toujours, un petit jardin potager. Iyad, son fils, a 17 ans.
D'abord, j'ai enlevé toute la rocaille. J'ai bien nettoyé le sol. J'ai creusé. J'ai ajouté de la bonne terre que j'ai ramenée des alentours de Amman, la capitale. Et j'ai planté mes graines. D'abord, des graines pour le canari. Vous savez, il chante mieux avec ses graines. Et puis, vous voyez, j'ai planté un peu d'épinards, des radis, de la menthe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je plantais en Syrie. Dans mon jardin, j'avais des lentilles, des carottes, des dattes. J'avais même des oliviers.
Dehors, les enfants, Ceux qui ne sont pas de corvée d'eau, ils traînent 4 ou 5 bidons de 20 litres chacun sur des carrioles de fortune, jouent au cerf-volant. On comprend maintenant pourquoi l'ensemble du camp est d'une propreté rigoureuse. Les sachets de plastique servent à confectionner la queue des cerfs-volants attachée à un bout de ficelle. Le corps du cerf-volant, à proprement dit, lui, est confectionné par des déchets de matelas en mousse attachés par des bouts de ficelle sur des baguettes faites en bois de cajou. Et à voir le vol brisé et chaotique de ces oiseaux dépenaillés et fragiles, ballottés dans le ciel bleu, le spectacle est émouvant. Rencontrer des femmes, c'est plutôt facile dans ce camp. Toutes remercient Dieu d'être là. Difficile en revanche d'obtenir, pour des raisons culturelles entre autres, difficile d'obtenir des informations sur les violences conjugales dont elles ont été l'objet. Deux ou trois langues finissent par se délier lorsque l'officier de police jordanien qui nous a accompagnés tout le temps s'est éloigné. C'est en fait en l'absence de tout homme qu'elles se sont confiées, mais en me faisant jurer de ne pas diffuser leur voix ou donner leur identité. Les violences conjugales, elles existent. La prostitution, des cas existent aussi, mais rien n'égale le témoignage de cette fille de 18 ans, très belle, trop belle même, et malgré son pied beau. Brune, un sourire radieux, malgré son calvaire, et de beaux yeux noirs, assombris à jamais. Les contrebandiers ont abusé d'elle, et dans le camion des passeurs qui amenait à prix d'or les réfugiés vers la Jordanie, pratiquement tous les réfugiés entassés dans le camion l'ont violée pendant 12 heures, les 12 heures du voyage. Plusieurs de ces violeurs vivent dans le même camp aujourd'hui. Et elle a beau sourire et nous dire qu'elle est au moins vivante, pas de doute, son destin est brisé à jamais. Une autre femme dans le camp à présent, elle, jouit d'une aura incomparable. Les femmes se pressent pour l'embrasser avec tout à la fois chaleur et déférence. Il faut dire qu'elle se démène du soir au matin pour améliorer le sort des habitants du camp. Les réfugiés l'ont surnommée Joan of Arc, Jeanne d'Arc, et elle-même l'ignore. Elle se nomme en fait Bernadette Castel, elle est française et elle est à la tête du HCR dans le camp.
On est dans le désert ici, donc les températures sont très froides, très chaudes. C'est un climat qui est quand même assez difficile. Et c'est vrai que pour des raisons de protection, mais aussi de sociabilité, il est très important que nous puissions donner accès à l'électricité aux réfugiés. Le second projet, la deuxième priorité ici, c'est l'établissement d'un marché dans le camp. C'est très important parce que le marché va devenir le cœur ensuite du camp. C'est très important pour des raisons de, encore une fois, de sociabilité, mais aussi pour donner une possibilité aux réfugiés de travailler, d'avoir un endroit où rencontrer les gens, venir.
D'avoir un salaire et donc de la dignité.
Absolument, c'est très très important.
Vous, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, qu'est-ce qui vous a le plus ému en vivant avec les réfugiés ici? Est-ce que vous avez vu des situations, des témoignages qui vous ont vraiment bouleversé?
Ben, et vous avez la femme qui a 55 ans, qui arrive seule ici, qui a perdu tout le monde et qui, dans le camp, dans sa première heure dans le camp, pleure. Et donc vous vous asseyez à côté d'elle, vous lui parlez, vous lui demandez pourquoi pleurez-vous, madame? Et elle vous dit parce qu'ici, pour la première fois depuis quelques années, je me sens en sécurité. Puis vous avez cette autre femme aussi d'une cinquantaine d'années, elle aussi seule, qui vous raconte que lorsqu'elle a fui la Syrie et qu'elle est... elle a approché des contrebandiers qui l'ont fait passer la frontière vers la Jordanie. Elle leur a dit prenez tout ce que vous voulez, laissez-moi juste une robe et laissez-moi mes diplômes, mes photos, mes livres sur les plantes médicinales. Et sa satisfaction aujourd'hui, c'est qu'elle a réussi à venir ici avec ses diplômes et ses plantes médicinales.
Et elle aide les gens autour d'elle, je suppose, avec les quelques plantes que peut-être
tout.
Et non seulement donc elle veut transmettre sa connaissance, parce qu'elle dit que si un jour elle meurt, c'est tout un savoir sur les plantes médicinales de la Syrie qui va partir avec elle. Mais elle est aussi quelqu'un avec qui nous voudrions travailler. Nous avons créé ainsi un parc dans le camp avec des arbres, et on lui a demandé de gérer le parc. Et donc nous sommes très contents parce qu'elle a, elle a accepté.
Et elle a beaucoup d'élèves.
Alors, pour l'instant, c'est un projet qui commence, mais bien sûr, on a bon espoir qu'avec l'aide du HCR, elle va pouvoir mener à bien tout ça.
Les réfugiés syriens en Jordanie, un grand reportage de Toufik Ben Aïchouch, réalisation Marc Minatel.
Toufik Ben Aïchouch, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors vous vous êtes rendu dans le désert jordanien, au milieu du sable et de la rocaille, à une centaine de kilomètres de Amman, la capitale jordanienne. Vous avez séjourné dans un camp de réfugiés syriens qui a été ouvert en avril dernier. Quelque 11 000 réfugiés vivent là. Vous avez pu les rencontrer et vous nous dites que vous avez vu de quoi pleurer et de quoi rire.
Oui, effectivement, de quoi rire, si vous voulez, on commence par ça. Imaginez des petites maisonnettes en tôle blanche, blanche pour ne pas emmagasiner la chaleur, car il peut faire 40 degrés en été. Nous sommes en plein désert et où que se porte le regard, rien d'autre qu'une terre ingrate, rocailleuse, mêlée à du sable. L'alignement des petites maisons est parfait et au bout de chaque petite ruelle, d'une propreté surprenante d'ailleurs, des lampadaires blancs, eux aussi surmontés de petits panneaux solaires. Au crépuscule, le soleil se couche à 17h30 là-bas, ces lampadaires s'allument et à chaque fois, c'est une clameur de joie qui s'élève. Le camp a l'électricité. Nous avons oublié, Laurent, ce que cela signifie, mais ça change vraiment la vie. Les femmes et les enfants peuvent circuler en toute sécurité, les enfants peuvent prolonger leurs devoirs, les adultes peuvent travailler pour améliorer leur ordinateur. Les femmes peuvent broder, faire la cuisine, bref, discuter, ça change la vie, quoi.
Alors pourquoi des panneaux solaires et qui les installe?
Alors dans le désert, ce que l'on trouve le mieux, c'est le soleil, évidemment. Et dans un autre camp de réfugiés syriens, toujours en Jordanie, celui d'Al-Zaatar, on s'était aperçu que certains réfugiés avaient fait des affaires en or en détournant du courant des pylônes électriques pour le revendre ensuite aux habitants pour recharger, entre autres, leur téléphone portable. Le seul lien de ces réfugiés, d'ailleurs, avec leurs proches restés en Syrie. La note d'électricité, en tout cas, était astronomique, d'où le recours à présent au solaire. Chaque coin de rue est surmonté d'un lampadaire blanc, surmonté lui-même d'un panneau solaire. Et au crépuscule, quand les lampes s'allument, c'est la fête, quoi. Alors, on a même vu des gens embrasser les lampadaires. Cette électrification, on la doit à IKEA. La maison suédoise, IKEA, chaque année, en effet, prélève 1 euro sur chaque ampoule LED vendue et consacre 60% de cette somme à l'éclairage du camp de réfugiés.
Alors, vous nous dites, Toufik, qu'au milieu du désert, avec des gens qui ont connu l'enfer, il y a des motifs pourtant de joie et d'espoir.
Vous savez, chaque réfugié avant de partir et de venir en Jordanie a traversé un véritable enfer. Ils ont tout quitté, leur maison a été bombardée, ils ont vendu le peu qu'il leur restait pour payer des contrebandiers. Il y a une fille de 18 ans, par exemple, qui est vraiment très belle malgré un pied beau, qui a été violée par les passeurs et ensuite par la centaine de réfugiés qui s'entassaient dans le même camion qu'elle. À côté de cela, n'oubliez pas que nous sommes vraiment dans le désert jordanien, j'ai rencontré des réfugiés qui ne se laissent pas abattre, en introduisant peu à peu de la terre transportée dans leur sac à dos. Miracle, ils ont fait des petits jardins, oh, 1 mètre ou 2 mètres cubes de terre, pas de quoi pavoiser normalement, mais ils font pousser des épinards, des radis, de la menthe devant leur porte. En fait, du chaos, ils ont fait un petit paradis, un tout petit paradis, et ils en sont très fiers.
Et puis, Toufik, dans ce désert toujours, on voit voler des cerfs-volants.
Oui, alors c'est vraiment un spectacle émouvant. Les enfants, vous savez, sont prodigieux. Avec des bouts de sachets en plastique et une corde, ils ont fait des queues de cerfs-volants. Avec des morceaux de matelas en mousse et du bois de cajou, ils ont fait le corps du cerf-volant. Ce sont eux, généralement, qui sont de corvée d'eau. Et en tirant sur des carrioles de fortune 5 ou 6 bidons de 20 litres d'eau, ils lâchent leur cerf-volant dans le ciel. Et ces petits porteurs d'eau ont donc souvent le nez dans les nuages. Et ils oublient en riant, pour quelques heures en tout cas, qu'ils sont des exilés. Ils ne reverront sans doute jamais plus leurs amis laissés à Damas ou encore à Alep.
Mais une partie de leur esprit dans les étoiles, sans doute. Alors, des cerfs-volants, on va se résumer en deux mots. Des cerfs-volants, des épinards, des radis.
Tout ça dans le désert.
Et de la menthe. Ce sera le mot de la fin. Toufik Ben Aïchouch, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Géopolitique, le débat.